22h ici à Paris, minuit en temps universel. Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
La une, sixième jour de manifestation contre la politique migratoire de Donald Trump aux États-Unis. La police de l'immigration poursuit ses raids contre les migrants, notamment dans les zones agricoles de Californie, un secteur qui avait été relativement épargné par les vagues d'arrestations massives. Plus d'un tiers de stocks de poissons dans le monde sont surpêchés, bilan de l'organisation de l'ONU en charge de l'alimentation. Et puis il était le cofondateur des Beach Boys, l'un des groupes phares des années 60. Qui a vendu le plus de disques au monde. Brian Wilson est décédé à l'âge de 82 ans. À Los Angeles, sixième jour de manifestation contre la politique migratoire de Donald Trump. Même si la police a procédé à 25 interpellations, la nuit est restée plutôt calme après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans le centre-ville. La situation reste toutefois tendue car 700 marines sont attendues sur place. Un déploiement vivement critiqué par les démocrates qui accusent Donald Trump d'attiser les tensions. Pendant ce temps, la police de l'immigration poursuit ses raids contre les migrants, notamment dans les zone agricole de Californie, un secteur qui avait été pourtant plutôt épargné par ces arrestations massives. Je vous propose d'écouter l'historienne Françoise Coste, professeure des universités et spécialiste de la politique intérieure américaine.
Les gros chiffres de clandestins, c'est souvent dans l'agro-business. Pour l'instant, c'est vrai, ICE n'a pas été trop allé voir là-dedans. Alors, beaucoup de questions d'hypothèses circulent. Économiquement, ça pose la question, en fait, le cœur du problème. C'est que oui, il y a beaucoup de clandestins aux États-Unis, mais c'est des gens qui travaillent. Et ils travaillent dans des secteurs où ils sont les seuls qui acceptent de travailler. Donc, par certains aspects, on peut dire que des pans entiers de l'économie américaine reposent sur le travail de ces clandestins. Et que le monde du business le sait, le monde du business est très proche du Parti républicain, donc le monde du business, là dans ce cas-là de l'agro-business, n'a peut-être pas très envie que la police de l'immigration aille aller voir ce qui se passe dans les fermes ou les ranchs ou les abattoirs. Donc là, on met le doigt sur une des potentielles problématiques, paradoxes du trumpisme, qui est la tension entre le discours anti-immigration et les intérêts économiques du pays.
L'historienne Françoise Coste au micro d'Anne Kantner. Au Proche-Orient, les 4 militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël seront expulsés jeudi et vendredi. Au total, 12 personnes étaient parties à bord du voilier Madeleine pour briser le blocus israélien et livrer de l'aide humanitaire à Gaza. Mais le navire a été intercepté par Israël ce lundi. L'eurodéputée de la France insoumise Rima Hassan faisait partie de l'équipage. Elle devrait rentrer en France jeudi soir. On écoute son avocate Adèle Aboussali, jointe par notre correspondant à Jérusalem, Sami Oukhalifa.
Jusqu'à ce matin, elle était à Ramallah, dans le centre de rétention de Givon. Je devais l'y rencontrer, mais j'ai appris qu'elle avait été placée à l'isolement dans la prison pour femmes de Neve Tirza, parce qu'elle avait écrit « Free Palestine » sur le mur de sa cellule. J'ai pu m'entretenir avec elle en prison, puis elle a été transférée de nouveau vers le centre de rétention. Physiquement et mentalement, elle va bien. Elle est forte et reste déterminée à faire passer le message qu'elle est venue délivrer. Mais elle est clairement dans le collimateur des autorités israéliennes, parce que c'est une élue, mais aussi parce qu'elle est palestinienne. D'après les dernières informations dont je dispose, elle devrait être expulsée demain.
Et pendant ce temps, la bande de Gaza, toujours frappée par l'armée israélienne. Au moins 60 personnes sont mortes ce mercredi. La plupart d'entre elles se trouvaient à proximité d'un centre d'aide humanitaire. Les États-Unis vont réduire les effectifs de leur ambassade en Irak. Décision pour des raisons de sécurité, car l'Iran a averti ce mercredi qu'il ciblerait les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas de conflit avec les États-Unis. Une annonce qui intervient tandis que des nouvelles discussions sont prévues dans les prochains jours au sujet du nucléaire iranien entre Téhéran et Washington. Après 2 jours de discussion entre négociateurs à Londres, le président américain annonce un accord commercial avec la Chine. Un accord qui, selon Donald Trump, est encore soumis à une approbation finale de Washington et Pékin. Cela pourrait permettre de fournir les terres rares nécessaires aux États-Unis. Les terres rares chinoises étaient un enjeu clé de ces négociations. Anne Vernaguet.
Les États-Unis souhaitent rétablir le rythme des expéditions de ces métaux stratégiques actuellement jugés trop bas par la Maison-Blanche. Du côté des taxes douanières vis-à-vis de la Chine, elles passent de 30 à 55%. Pékin, de son côté, taxera les produits américains à 10%, ce qui fait dire à Donald Trump que la relation entre les deux pays est excellente. En échange, il dit vouloir respecter sa part, notamment en permettant aux étudiants chinois de venir dans les universités américaines. Pékin attend aussi que Washington reconsidère les contrôle aux exportations de certains produits américains, notamment technologiques, vers la Chine. Les conséquences de la guerre commerciale entre les deux pays sont déjà tangibles, avec une baisse de 12,7% des exportations chinoises vers les États-Unis le mois dernier. Il est pourtant possible de rééquilibrer les liens économiques entre Chine et États-Unis, a affirmé le secrétaire américain au Trésor. Donald Trump, lui, dit vouloir travailler étroitement avec le président Xi pour ouvrir la Chine au commerce américain. Ce sera une victoire pour nos deux pays, a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social.
Et de son côté, le vice-premier ministre chinois et principal négociateur commercial du pays avec les États-Unis a appelé à renforcer la coopération bilatérale. Hervé Weinstein, l'ancien producteur roi du cinéma, de nouveau reconnu coupable d'une agression sexuelle. Et ce, un an après l'annulation en appel d'une première condamnation prononcée en 2020. Les faits remontent à 2006 sur l'ancienne assistante de production Myriam Halley. Les délibérations doivent se poursuivre ce jeudi pour une accusation de viol contre l'aspirante actrice Jessica Mann en 2013. Plus d'un tiers des stocks de poissons dans le monde sont surpêchés, un chiffre qui continue de progresser. Et c'est ce qui ressort du rapport annuel de la FAO, bilan de l'organisation de l'ONU en charge de l'alimentation, révélé à l'occasion de la conférence internationale sur les océans qui se tient en ce moment à Nice, dans le sud de la France. Un rapport dont les auteurs souhaitent cependant mettre en avant les initiatives qui fonctionnent, car il y en a plusieurs. Simon Rosé.
35,5% des stocks de poissons dans le monde sont surpêchés, trop de prises pour permettre le renouvellement des populations. Un chiffre en progression qui masque cependant une grande disparité selon les régions du monde. Certaines s'en tirent en effet très bien. La FAO cite le large de l'Alaska ou le large de l'Australie. Seule une dizaine de pourcents des prises n'y sont pas durables. Résultat d'une approche de protection basée sur la connaissance scientifique et de coopération entre les pays concernés. À l'inverse, le golfe de Guinée suit une dynamique inverse. Plus de la moitié des prises ne permet pas la reconstitution de la ressource, au détriment des pêcheurs locaux qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur activité. Manuel Barange, directeur de la division pêche à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation.
Les stocks de poissons proches de la côte, proches de grands bassins de population, sont très souvent surpêchés. Ces pêcheries artisanales sont pourtant très importantes pour la sécurité alimentaire. 500 millions de personnes y travaillent et elles sont responsables de 40% des prises mondiales. Les pêcheries à petite échelle ne sont petites que de nom et elles sont donc parmi les premières concernées par ces enjeux de durabilité.
La FAO met en avant le manque de données sur les stocks de poissons dans ces régions qui empêchent un suivi précis et l'application de mesures de conservation efficaces.
Simon Rosé du service environnement d'RFI. Et puis Brian Wilson est décédé à l'âge de 82 ans. Lui, le cofondateur des Beach Boys, l'un des groupes phares des années 60 qui a vendu le plus de disques au monde. Retour sur le parcours de Brian Wilson avec le journaliste et écrivain Christophe Comte, spécialiste du rock. Edmond Sadaka l'a joué au téléphone.
C'était un musicien qui a eu d'une certaine manière deux vies parallèles, une vie de faiseur de tubes, notamment dans la première partie des années 60 avec les Beach Boys, où il a écrit la bande-son de l'Amérique, du surf, des voitures et de la Californie. Et à partir de 65-66, c'est devenu un créateur d'une musique que personne n'avait entendu, qui allait bien au-delà des Beach Boys. Donc c'est forcément l'album Pet Sounds qui est son chef-d'œuvre. Le problème, c'est que cet album Pet Sounds a moins bien marché et que sa famille, parce que ce groupe, il était aussi fondé par ses frères et son cousin, l'a accusé d'avoir, d'une certaine manière, cassé la poule aux œufs d'or. Et il s'en est pas vraiment remis. Après, ça a été un vrai drame. Il est rentré dans une longue période de dépression. Mais malgré tout, il est revenu à la fin des années 90 avec un album assez remarquable. Et puis ensuite, à partir des années 2000, il a eu une autre vie beaucoup plus apaisée, avec des musiciens autour de lui qui ont vraiment servi à faire connaître sa musique.
God Only Knows, extrait de l'album Pet Sounds. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. RFI bientôt 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel.